3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le nom xénomorphe, utilisé pour la première fois par un lieutenant de la marine en référence à une vie extraterrestre générique, représente une espèce extraterrestre endoparasitoïde qui fut découverte pour la première fois sur le planétoïde LV-426 à l'intérieur de la coque d'un vaisseau spatial abandonné qui semblait s'être écrasé là-bas. À la base, cette créature est un pathogène parasite hostile qui évolue pour adopter les caractéristiques biologiques et physiologiques de son hôte, lui permettant ainsi de s'adapter à son environnement. Cela est dû à un transfert de gènes pendant la gestation, faisant en sorte que ces créatures adoptent certains attributs physiques de leurs hôtes. Leur apparence squelettique et biomécanique est généralement de couleur noire, bleu ou bronze, et celles-ci possèdent quelques tubes dorsaux sur leur dos, dont l'utilité reste à ce jour inconnu. Ne dégageant aucune chaleur, cette dernière correspondant à la température ambiante de leur environnement, ils sont dotés d'une grande force physique, ayant démontré leur capacité à briser des portes en acier soudé et sont capables de maîtriser des hommes adultes au corps à corps. Il a été démontré que la créature possède un nombre variable de doigts, variant entre 3 et 6, ces derniers étant longs et squelettiques. Le cycle de vie de ces créatures comprend plusieurs étapes distinctes. Ils commencent leur vie sous forme d'œufs, pondus par une reine et d'où éclot une larve parasite possédant plus de 8 pattes qui s'attache ensuite au visage d'un hôte vivant qui l'imprègne alors d'un embryon. Cet embryon deviendra par la suite une larve qui émergera après une gestation de plusieurs heures de la poitrine de son hôte, entraînant la mort de ce dernier. Par la suite, la petite créature se retire dans un lieu isolé où elle se transforme en organisme adulte en quelques heures, muant et remplaçant ses cellules par du silicium polarisé et possédant alors du sang contenant de l'acide fluorhydrique et de l'acide sulfurique concentré, capable de corroder presque n'importe quelle substance au contact à une vitesse alarmante, faisant d'elle une créature meurtrière extrêmement dangereuse à tous les niveaux. Durant leur première phase, ces créatures possèdent des queues terminées par des pointes en forme de lame, cette queue se développant et devenant segmentée et plus large, semblable à une lame tranchante. Leur crâne est allongé et cylindrique, mais est dépourvu d'yeux. Finalement, leur gueule comprend deux types de mâchoires, dont celles internes sont suffisamment puissantes pour briser n'importe quel os ou métal. Le xénomorphe peut également produire une résine épaisse et résistante qu'il utilise pour construire sa ruche et pour enfermer ses victimes dans un genre de cocon. Elle salive également abondamment sous la forme d'une substance visqueuse et transparente. Et ce sera cette créature et ses multiples transformations génétiques qui nous intéresseront ici Alors que nous serons confrontés à un nouveau type de xénomorphe dans ce troisième et quatrième volet de la franchise Alien, soit les films Alien 3 du réalisateur David Fincher, ainsi que Alien Resurrection du metteur en scène français Jean-Pierre Jeunet.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Good evening, ladies and gentlemen. We're happy to announce that we've installed Burns-O-Matic in-car heaters for your comfort and pleasure. When you receive your heater, you'll find it very easy to place in your car. Just roll down your front window and rest the heater's bracket on the window with the cylinder on the outside of the car. Roll up your window securely as far as it will go to hold the heater firmly in position. For maximum results, tilt the face of the heater towards the windshield and sit back and enjoy the show in healthful comfort. With these modern, safe, efficient in-car heaters, this drive-in theater will now remain open all year round. If you have any further questions about your Burns-O-Matic in-car heater, please contact one of our theater attendants. And remember, this drive-in theater will now remain open all year round, regardless of the weather.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go! It's showtime!
And now, on with the show!
Sont froids, où le vent est glacial. Une femme est arrivée. Mais elle n'est pas venue seule.
Ça commence.
Allez, approche !
L'angoisse est de retour.
Et nous n'avons aucune arme pour la détruire ?
La peur est de retour. Par-dessus tout, la bête est de retour. Alien 3.
Alien 3 est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 22 mai 1992. Ce film américain et britannique de 114 minutes a coûté 60 millions de dollars à produire et a amassé plus de 175 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain David Fincher, lui qui nous avait donné les films Fight Club, The Game, Zodiac et Panic Room. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs américains Gordon Carroll, lui qui avait produit les films Blue Thunder, Cool Hand Luke et Red Heat, David Geller, lui qui avait produit les films Alien vs. Predator, Prometheus, Let It Ride et Ritual, et finalement Walter Hill, lui qui avait produit les films Blue City, la version de 1994 de The Getaway et finalement 48 Hours. Au poste de scénariste, on y retrouve les scénaristes américains David Geller, lui qui avait écrit le scénario de The Parallax View, The Money Pit et Undisputed, Walter Hill, qui avait écrit les scénarios de Drowning Pool, Red Heat et Street of Fire, et finalement Larry Ferguson, lui qui nous avait donné les scénarios de Beverly Hills Cop 2, Highlander et Maximum Risk. Dans la distribution, on y retrouve Sigourney Weaver, Charles Dutton, Charles Dance, Brian Glover, Ralph Brown, Paul McGann, Danny Webb, Lance Henriksen, Tom Woodruff Jr., Pete Postlewaite, Holt McCallany, Peter Guinness et Vincenzo Nicoli. À la suite d'une erreur de fonctionnement, un vaisseau contenant le corps en état d'hibernation d'une femme officier s'écrase sur une planète éloignée, peuplée d'une communauté de prisonniers convertis à la religion. Cependant, une entité extraterrestre cachée dans le vaisseau se glisse dans les installations de la dite planète où elle sème alors la mort. Un mois suite au succès en salle du drame de science-fiction Aliens, les hauts dirigeants de la 20th Century Fox contacteront les propriétaires de la compagnie Brandywine Production, c'est-à-dire les producteurs David Geller, Walter Hill et Gordon Carroll, afin de réaliser d'autres suites. Cependant, les trois hommes n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'un projet Alien 3, les trois partenaires souhaitant se rendre dans une direction totalement différente des deux premiers volets. Différents concepts seront alors discutés, aboutissant alors à une histoire en deux parties qui explorerait alors la duplicité de la compagnie Weyland-Yutani Corporation et les raisons pour lesquelles elle était si déterminée à utiliser les aliens comme arme biologique. Le personnage du Corporal Hicks, interprété dans le précédent film par l'acteur Michael Biehn, deviendrait le protagoniste principal de ce troisième volet, tandis que le personnage d'Ellen Ripley, qui serait de nouveau interprété par la comédienne Sigourney Weaver, serait réduit à une brève apparition avant de revenir dans le quatrième volet, dans lequel se trouverait une bataille épique contre ces créatures extraterrestres produites en masse par des Terriens expatriés. Weaver apprécia la métaphore de la guerre froide du synopsis et accepta un rôle plus restreint, notamment en raison de son mécontentement envers les hauts dirigeants de la Fox qui avaient demandé de supprimer de la version finale de Aliens certains plans cruciaux expliquant l'histoire de fond de Ripley, tel le fait que cette dernière avait une fille. Bien que les exécutifs de la Fox furent sceptiques quant à l'idée de base de ce synopsis, ceux-ci accepteront de financer le développement de l'histoire, mais à condition que Hill, Carroll et Geller tentent de convaincre le réalisateur britannique Ridley Scott, qui avait mis en scène le film original, de revenir pour la réalisation des deux prochains longs-métrages qui devaient être tournés l'un après l'autre afin de réduire les coûts de production. Scott, qui souhaitait grandement revenir dans la franchise, ne pourra cependant pas accepter en raison de son emploi du temps chargé, le metteur en scène travaillant à ce moment sur deux productions, soit le drame policier Black Rain et le film d'aventure Thelma & Louise. En septembre 1987, Geller et Hill embaucheront l'auteur William Gibson pour écrire le scénario du troisième film. Cependant, craignant une nouvelle grève imminente de la Writers Guild of America, les deux producteurs demanderont à Gibson de leur remettre le scénario avant décembre de cette même année. Walter Hill se portera volontaire pour réaliser le long-métrage, mais ce sera finalement le réalisateur finlandais Rennie Harlan qui sera contacté pour mettre en image le nouveau film suite au succès de son tout premier long-métrage, A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master. Après la fin de la grève de la Writers Guild of America, Gibson sera invité à faire des réécritures avec Harlan sur son scénario dont les producteurs étaient quelque peu insatisfaits. Gibson refusera, invoquant divers autres engagements, forçant alors le réalisateur à embaucher le scénariste Eric Red, auteur des scripts de films d'horreur cultes tels que The Hitcher et Near Dark. Ce dernier travaillera durant plus de deux mois afin de livrer sa version préliminaire de son scénario en février 1989, celui-ci étant alors rejeté par la compagnie Brandywine, ce qui forcera également les producteurs à abandonner l'idée de développer deux suites simultanément. Ce rejet poussera Rennie Harlan à bout et le réalisateur se retirera donc du projet pour travailler sur sa comédie « The Adventures of Fort Fairlane ». En décembre 1989, le scénariste David Twohy sera embauché par les dirigeants de la 20th Century Fox. Le président de la Fox, John Roth, demandera que soit remis en avant-plan le personnage d'Ellen Ripley et demandera à Reaver de reprendre son rôle pour le prochain film, cette dernière étant hésitante suite à une grossesse récente. L'actrice acceptera finalement le poste avec un salaire estimé entre 4 et 5 millions de dollars, plus une part des recettes au box-office. Elle demandera également que l'histoire soit suffisamment impressionnante, originale et indépendante des armes à feu pour contraster avec le long-métrage précédent. Twohy s'attellera donc à intégrer Ripley à son scénario et changera alors le cadre de l'histoire afin que celle-ci se situe sur une planète servant de prison. Entre-temps, le producteur-réalisateur Walter Hill engagera le réalisateur Vinson Ward, qui avait attiré son attention grâce à son travail sur la coproduction australo-néo-zélandaise de Navigator, A Medieval Odyssey, qui sortit en salle en 1988. Ward, de son côté, embauchera le scénariste John Fasano, qui remaniera alors entièrement le scénario en s'appuyant sur une nouvelle idée de Ward, dans laquelle les prisonniers se convertiront à la religion et deviendront alors des moines, forçant alors le départ de Twohy du projet. Cependant, l'idée d'un groupe de moines suscitera la controverse au sein du studio et le réalisateur Vinson Ward sera le prochain à quitter le projet alors que les décors du film étaient en pleine construction. À l'approche du tournage, les producteurs Giller et Hill verseront plus de 500 000 $ au scénariste de Beverly Hills Cop 2, Larry Ferguson, pour réaliser des réécritures. Ces contributions seront alors mal accueillies par Giller et Hill, qui prendront alors le contrôle du script et chercheront à réarranger le tout, les exécutifs de la Fox recrutant alors le scénariste Rex Pickett 4 semaines avant le début de tournage, avec pour instruction spécifique de modifier de larges sections de la dernière version de Giller et Hill. Plus de 13 noms apparaîtront au final sur la feuille de soumission officielle à la Writers Guild of America. Voyant la difficulté d'obtenir un scénario de bonne qualité, Weaver acceptera de rester sur le projet à condition que son personnage soit tué à la fin du long métrage, mettant ainsi un terme à sa participation à la franchise. Parallèlement, un jeune réalisateur de publicité télévisée et de clips musicaux acclamés de 28 ans, David Fincher, sera embauché, ce dernier faisant alors ses premiers pas à titre de réalisateur de films. En apprenant la mort du personnage de Hicks, l'acteur Michael Biehn exigera et recevra presque autant d'argent pour l'utilisation de son image pour une seule séquence que ce qu'il avait reçu pour son rôle complet dans Aliens. Malgré les inquiétudes suscitées par une menace de grève de la Broadcast and Entertainment Trades Alliance en Angleterre, le tournage principal débutera le 14 janvier 1991 au studio Pinewood à Londres. Ancien matte painter chez Industrial Light and Magic, le réalisateur construira ses décors sur plus de 7 plateaux de tournage, incluant le très célèbre plateau 007. Avant même qu'une seule séquence ne soit tournée, plus de 7 millions de dollars avaient déjà été dépensés sur la production. Certaines scènes seront également tournées à la centrale électrique de Blyth et sur la plage près de Dowden, au Royaume-Uni. Ce seront les techniciens des studios Boss Film qui retravailleront la créature extraterrestre de ce troisième volet afin d'accroître sa mobilité et développeront un système de caméras à mouvement contrôlé utilisant à la fois des marionnettes à tiges et un système composite conçu en conjonction avec la caméra Panavision 65 mm Silent Studio Reflex appelée le MoMotion. Parce qu'il n'était pas disponible pour cette production, le concepteur des effets spéciaux Stan Winston laissera sa place au concepteur des effets spéciaux Tom Woodruff Jr. Pour filmer en gros plan la créature, Woodruff portera une tête d'alien en fibre de verre et une combinaison intégrale en mousse de latex et nylon, tandis que des plans d'ensemble seront créés avec des marionnettes et des composites de matte painting. Fincher souhaitait que la créature extraterrestre ressemble davantage à une bête par opposition à la posture humanoïde des films précédents. Le concepteur de l'extraterrestre original, H.R. Giger, fut alors contacté pour proposer aux réalisateurs de nouvelles esquisses. Ces modifications incluaient des pattes plus longues et plus fines, la suppression des tuyaux autour de la colonne vertébrale et l'idée d'une langue pointue à la place des mâchoires secondaires. Depuis son atelier de Zurich, Giger réalisera ses nouvelles esquisses qu'il faxa à Cornelius de Vries, ce dernier produisant ensuite les modèles en pâte à modeler. Le seul modèle de Giger retenu par Fincher pour le projet final fut celui du Bambi Burster, doté de longues pattes et marchant à quatre pattes. Le directeur de la photographie, Jordan Cronenweth, dont la santé se détériorait suite à un diagnostic de la maladie de Parkinson une décennie plus tôt, ne travaillera que deux semaines avant de devenir trop malade pour continuer sa situation médicale, mettant une très grande pression sur sa relation avec Fincher, forçant alors le réalisateur à le remplacer par Alex Thompson. D'ailleurs, Fincher se forgera rapidement une réputation de perfectionniste brillant mais intransigeant, ce qui contribuera à d'énormes tensions entre l'équipe de production créative et les dirigeants de la Fox. De plus, Fincher était souvent en conflit avec les exécutifs des studios, ces derniers, tentant de convaincre le jeune metteur en scène de réaliser le film qu'eux souhaitaient. Le tournage se poursuivra à un rythme effréné avec des journées de 18 heures par jour, 6 jours par semaine, et ce, jusqu'au début de l'été 1991, lorsqu'il sera annoncé que le tournage à Londres prenait fin. En effet, la situation entre le réalisateur et les producteurs finit par devenir si désastreuse que la seule façon de sauver le film fut, aux yeux des producteurs, de transférer la production sur le plateau des studios Fox aux États-Unis. Une fois le tournage terminé, le président de la 20th Century Fox, Joe Roth, exigera de Fincher un montage brut des scènes avant de déterminer ce qui devait être finalisé. Après plus de 9 semaines de montage, qui aboutiront à une version finale de plus de 2h17, la décision sera prise d'avoir plus de 4 semaines de tournage supplémentaire à Los Angeles afin de retravailler le film dans son ensemble. L'actrice Sigourney Weaver fut une fois de plus contrainte de se raser la tête car une grande partie des images nécessaires impliquaient des scènes coupées du scénario original en raison de contraintes budgétaires et de calendrier. L'équipe de post-production passa par la suite plus de 2 mois supplémentaires au montage et à la finition des effets spéciaux, ce qui repoussera de 5 mois la date de sortie prévue à l'origine pour Noël 1991. Tout cela fera en sorte que le budget initial de 35 millions de dollars gonflera à plus de 60 millions de dollars au final. Une fin alternative sera également tournée par crainte que la fin originale soit trop similaire à celle de Terminator 2 Judgment Day, sortie en salle l'année précédente. Cette séquence ne sera cependant jamais utilisée. Après avoir travaillé plus de 2 ans sur ce projet, qui fut difficile pour lui et ce dès le départ, le réalisateur David Fincher quittera la production avant même le montage final, laissant le soin au studio de superviser le produit final. Au niveau musical, ce sera le compositeur Elliot Goldenthal qui sera embauché. Il consacra plus d'un an à la composition de la musique en étroite collaboration avec Fincher. La musique fut enregistrée pendant les émeutes de Los Angeles de 1992 avec l'aide du Hollywood Studio Symphony. Alien 3 sortira dans plus de 2500 cinémas en Amérique du Nord le 22 mai 1992, recevant des critiques mitigées et débutant à la 2e place du box-office, tout juste derrière Lethal Weapon 3, avec un total de 23,1 millions de dollars durant le week-end du Memorial Day. Après une chute de 60 % des recettes au cours de sa 2e semaine, ce 3e volet des aventures de Ripley ne cumulera que 55 millions sur le continent nord-américain. Cependant, Alien 3 obtiendra beaucoup plus de succès à l'étranger, battant des records au box-office de Hong Kong, en plus d'obtenir des rendements impressionnants à Taïwan, le film amassant plus de 104,3 millions de dollars au niveau international. Alien 3 obtiendra plus de 15 nominations dans différents événements, mais ne remportera que le prix du meilleur montage sonore aux Golden Reel Awards, ainsi que la meilleure séquence d'action aux MTV Movie Awards, les deux événements se passant en 1993. Une série d'animation intitulée Operation Aliens fut conçue par la compagnie Kenner Toys et la 20th Century Fox avec une diffusion prévue pour coïncider avec la sortie d'Alien 3. L'animation de cette série devait être assurée par le studio d'animation coréen Acom, mais le projet fut finalement abandonné par crainte d'une violation de la loi sur la télévision pour enfants et parce que Fox, qui prévoyait de produire d'autres films de la franchise Alien, craignait qu'une série animée pour enfants ne dilue l'attrait de la série auprès des plus âgés. Une novélisation du film sera également réalisée par l'auteur Alan Dean Foster, celui-là même qui avait écrit les novélisations d'Alien et d'Aliens. L'adaptation de Foster comprenait de nombreuses scènes coupées de la version finale du long-métrage, dont certaines sont réapparues plus tard dans la version du Special Edition. Foster souhaitait que son adaptation diffère du scénario du film qu'il n'aimait guère, mais Walter Hill le préviendra qu'il ne devait pas modifier l'intrigue. Amer par cette expérience, Foster complétera son travail, mais ne reviendra pas pour l'écriture de la novélisation du prochain film, Alien Resurrection. Un jeu vidéo du même nom sera développé par la compagnie Probe Entertainment et distribué sur plusieurs consoles, dont Amiga, Commodore 64, Nintendo Entertainment System, Super NES, Mega Drive Genesis et Master System. La compagnie Dark Horse Comics publiera une adaptation du long-métrage dans une mini-série de 3 numéros. Créée par le scénariste Stephen Grant et le dessinateur Christopher Taylor, la bande dessinée était une adaptation fidèle du drame de science-fiction. Puis, en 2018, Dark Horse réalisera une mini-série de 5 numéros adoptant le scénario devenu culte de William Gibson. Ce sera Johnny Christmas qui s'occupera du scénario et des illustrations, alors que la colorisation du comic sera réalisée par Tamra Bonvillain. Afin de célébrer les 40 ans du film Alien, la compagnie Audible distribuera un roman audio du scénario de Gibson, adapté par Dirk Maggs. Ce sera les acteurs Michael Beans et Lance Henriksen qui prêteront leur voix à leurs personnages respectifs, alors que la musique sera composée par le musicien James Hannigan. Finalement, en 2021, l'auteur Pat Cadigan écrira une autre adaptation du scénario de William Gibson, cette fois sous forme d'un roman qui sera distribué par la maison d'édition Titan Books. Cette nouvelle remportera le prix du Scribe Award for Best Adapted Novel. L'acteur Brian Glover, qui avait travaillé à titre de professeur et de lutteur professionnel avant de devenir acteur, développera en septembre 1996 une tumeur cérébrale. Il sera alors opéré et la tumeur sera retirée. Semblant complètement rétabli, l'acteur apprendra que la tumeur était réapparue à l'été 1997. Glover décédera dans son sommeil dans un hôpital londonien le 24 juillet 1997. Pete Postlethwaite recevra un premier diagnostic de cancer en 1990. Fumeur depuis l'âge de 10 ans, Postlethwaite verra son cancer évoluer jusqu'à son pancréas en mars 2009, continuant sa carrière de comédien et montrant des signes évidents de perte de poids. Ce sera finalement le 2 janvier 2011, à l'âge de 64 ans, que l'acteur décédera au Royal Shrewsbury Hospital de Shrewsbury, en Angleterre. Puis, finalement, le directeur de la photographie, Alex Thompson, décédera le 14 juin 2007, à l'âge de 78 ans, à Chertsey, en Angleterre. Du côté des points forts, eh bien, Alien 3 se veut un véritable vidéoclip de plus de 2 heures dont ses décors sont tout simplement impressionnants. David Fincher s'est entouré d'un groupe de techniciens hors pair qui nous donne ici un visuel tout ce qu'il y a de plus remarquable et ce, malgré un scénario souffrant de manque de profondeur. La direction de la photographie est également supérieure à ce que l'on aurait pu s'attendre d'un tel spectacle, faisant de ce film une œuvre belle à regarder et ce, malgré sa médiocrité. Au niveau de la distribution, cette dernière est intéressante, tout spécialement Charles Dutton et Charles Den, qui se démarquent du reste du peloton, alors que Weaver est aussi bonne que son personnage lui permet. Mais du côté des points faibles, eh bien, le film est victime d'un manque de direction flagrant dans ce projet, le résultat final nous donnant l'impression que le réalisateur n'avait pas le plein contrôle de sa vision. Au niveau scénaristique, l'histoire ne tient tout simplement pas debout. Il est illogique qu'il y ait un œuf sur le Sulaco, le vaisseau se trouvant alors dans l'espace dans le précédent film, alors que la navette qui a remonté Ripley et son équipage de LV-426 n'avait jamais touché le sol de la planète. Par la suite, le fait qu'un facehugger implante deux personnes différentes et se sent mourir, dans ce cas-ci, Ripley et le chien, est totalement impossible selon la biologie de la créature qui nous a été présentée depuis le début de la franchise et est tout simplement ici une traîtrise scénaristique pour faire avancer une histoire bidon. De plus, l'incubation de Ripley est beaucoup trop longue, ce qui est totalement illogique encore une fois avec ce qui nous a été donné de voir jusqu'ici. La musique est ici agressante, tout comme le montage qui nous présente une séquence de chasse finale qui devient redondante, manquant totalement de suspense. Le concept de meurtrier dangereux aux prises avec le Alien était super intéressant, mais n'est nullement exploité ici, transformant ces meurtriers en véritables poules mouillées au lieu de dangereux prédateurs à la recherche de la créature qui les chasse. De plus, le spectateur ne s'amourache pas des personnages, faisant en sorte que leur mort ne nous touche guère lorsqu'elles surviennent. Au niveau des effets spéciaux, ceux-ci de son qualité médiocre, l'infographie étant ici tout simplement horrible au niveau visuel, spécialement au niveau de la créature extraterrestre. Au final, Alien 3 nous donne l'impression d'une œuvre totalement inachevée, manquant ainsi totalement de respect aux amateurs de la franchise. Au niveau musical, eh bien c'est le compositeur Elliot Goldenthal, ce compositeur américain qui nous avait donné la musique des films Pet Sematary, la version de 1989, Batman Forever, Sphere et la version de 1994, Interview with the Vampire, qui s'est occupé ici de la réalisation de la partition musicale. On peut retrouver la trame sonore de Alien 3 sur CD, elle qui a été distribuée sous l'étiquette MCA le 9 juin 1992. Et vous avez également la Expanded Edition de Alien 3, une édition limitée à seulement 3500 exemplaires qui furent diffusées sous l'étiquette La La Land le 3 mai 2018.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Fireteam Elite action figures, each sold separately, from NECA.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Aliens.
Watch out, Ripley!
You're entering the hive.
Use them with your pulse rifle! Oh no, Ripley! It's the mama!
And she's big!
Get away from her, you witch!
It's game over for her!
Yeah! New alien figures have the power, each sold separately from NECA. Affirmative!
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
¶¶
Rated X.
These were very, very hard to come by.
So was our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress.
It's a military operation.
Really?
Who are you?
Ripley Ellen, Lieutenant First Class, number 36706.
Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab.
What the hell is going on here?
He is breeding an alien species.
Wish you could understand what we're trying to do here.
No, they brought it out of you. Not all the way out.
You want to tell us what this is?
It's a queen. She'll breed. You'll die.
Ripley died trying to wipe the species out. I'm not anxious to see her taking up her old hobby.
I can feel it. I can hear it moving.
So hey, you like ran into these things before?
Yeah.
What did you do?
I died. We're moving.
That's a standard emergency procedure.
Any serious problem and the ship autopilots back to home base.
What's home base?
Earth.
I thought you were dead.
Yeah, I get that a lot.
Alien Resurrection, ou Alien, la résurrection, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 26 novembre 1997. Ce film américain d'une durée de 109 minutes a coûté 70 millions de dollars à produire et a amassé plus de 161,4 millions à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène français Jean-Pierre Jeunet, lui qui nous avait donné les films Délicatessen, La cité des enfants perdus et Big Bug, alors qu'au niveau de la production, on y retrouve les producteurs américains Gordon Carroll, lui qui avait produit les films The April Fools, The Best of Times et Pat Garrett and Billy the Kid, Walter Hill, lui qui avait produit les films Blue City, Red Heat, Wild Bill et Undisputed, David Giller, ce producteur qui avait produit les films Alien, Prometheus et Ruthless Rhapsody, Bill Badalato, qui avait produit les films Top Gun, Broken Arrow, Hot Shot 1 et 2 et About Schmidt, et finalement Sigourney Weaver, cette productrice américaine qui avait produit les films The Lost Flowers of Alice Hart et bien sûr Alien 3. Au poste de scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Joss Whedon, lui qui avait écrit les scénarios du film Serenity, Toy Story, Titan A.E. et The Avengers. Dans la distribution, on y retrouve Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman, Dan Hedaya, G.E. Freeman, Brad Dourif, Michael Wincott, Dominic Pinon, Gary Durden et Kim Flowers. Dans un vaisseau spatial militaire, des scientifiques parviennent à créer un clone d'un officier décédé deux siècles auparavant afin d'extirper de son corps le fœtus d'une créature extraterrestre et ainsi faire plusieurs expériences génétiques pour créer différentes créatures qui s'échappent alors et s'attaquent à l'équipage ainsi qu'aux pirates de l'espace qui se trouvent à bord du vaisseau. Malgré les mauvaises critiques d'Alien 3, les hauts dirigeants de la Fox désiraient un autre volet de la franchise. Un concept imaginant que le personnage de Newt serait cloné sera alors abordé puisque le personnage d'Ellen Ripley était décédé à la fin du long-métrage précédent. Mais les producteurs originaux David Giller et Walter Hill s'opposeront à l'idée d'un quatrième volet de la série, estimant avoir bouclé la trilogie avec Alien 3 et seront donc largement ignorés sur la production, leur relation avec le studio s'étant dégradée à cette époque suite à plusieurs procès contre la Fox pour manque à gagne. Ce seront pourtant eux qui auront l'idée de cloner Ripley et non Newt, trouvant cette idée beaucoup plus intelligente, le personnage de Newt n'ayant jamais été porteuse d'un embryon. Impressionné par le travail de Joss Whedon, ce dernier venant d'obtenir une nomination aux Oscars pour son travail sur le scénario de Toy Story pour les studios Pixar, la 20th Century Fox engagera alors le jeune scénariste qui écrira un synopsis de plus d'une trentaine de pages qui comportait un troisième acte sur Terre avec une bataille finale entre les créatures extraterrestres et l'équipe de Ripley. Whedon écrira un total de 5 versions de cet acte final qui ne sera finalement jamais utilisé pour le film. Alors que Whedon travaillait sur le scénario, les exécutifs de Fox chercheront à convaincre Sigourney Weaver de reprendre son personnage de Ripley, cette dernière ayant demandé que Ripley soit tué dans Alien 3 afin d'être libérée de ses obligations vis-à-vis la franchise. Cependant, Weaver fut impressionné par le scénario de Whedon et pensait que le clonage de son personnage lui permettrait d'explorer une nouvelle facette de son caractère. Une offre de plus de 11 millions de dollars ainsi qu'un poste de coproductrice forceront alors l'actrice à reprendre du boulot. Le réalisateur de Trainspotting, Danny Boyle, sera alors approché pour réaliser le film. Boyle et son producteur rencontreront alors les superviseurs des effets spéciaux afin de discuter de la production, mais les deux hommes préféreront travailler sur un autre projet, soit celui de A Life Less Ordinary. Ce sera par la suite le metteur en scène néo-zélandais Peter Jackson qui sera approché, ce dernier refusant car il n'était pas très enthousiaste par la réalisation d'un film de la franchise d'Alien. En 1995, après la sortie de The Usual Suspects, la Fox approchera le metteur en scène Bryan Singer afin de réaliser le nouveau long-métrage, mais ce sera finalement le metteur en scène français Jean-Pierre Jeunet qui fut sollicité pour réaliser Les producteurs, pensant que son style visuel unique apporterait quelque chose de totalement différent à la franchise. Jeunet, qui venait tout juste de terminer le scénario d'Amélie Poulain, fut surpris de l'offre, mais acceptera cependant le projet, obtenant un budget de plus de 70 millions de dollars pour le réaliser. Ce serait ici la toute première expérience de Jeunet à titre de réalisateur unique, ce dernier ayant co-réalisé les films fantastiques français surréalistes « Délicatessen » et « La cité des enfants perdus » avec le réalisateur Marc Caro. Caro se rendra néanmoins à Los Angeles pendant plusieurs semaines afin de concevoir des costumes et réaliser des décors pour son ami, et ce, même s'il n'était point intéressé à travailler sur le long-métrage. Ne parlant aucunement l'anglais, Jean-Pierre Jeunet aura besoin d'un interprète afin de communiquer avec ses acteurs ainsi qu'avec ses techniciens. De plus, Jeunet, dont c'était ici la toute première réalisation à partir d'un scénario qui n'était pas le sien, n'était pas un adorateur du style d'écriture de Whedon et retravaillera le script de ce dernier afin de l'adapter à son style visuel. Cela jettera un froid entre les deux hommes, Whedon n'appréciant ouvertement pas ce que deviendra le film, principalement dû, à son opinion, au mauvais choix de la distribution et à la façon que ces dialogues seront interprétés par les comédiens choisis. Angelina Jolie sera approchée pour le personnage de Carl, mais ce sera finalement l'actrice Winona Ryder qui obtiendra le poste, cette dernière acceptant de faire le film avant même d'avoir lu le scénario, déclarant qu'elle aurait fait ce projet même si son personnage devait mourir dès la première scène. Ron Perlman et Dominique Pinon, qui avaient joué sous la gouverne de Jeunet dans « La cité des enfants perdus », auront une passe-droit pour leur rôle respectif, Jeunet adorant travailler avec les deux comédiens. Tom Woodruff, qui sera de nouveau le concepteur des effets spéciaux ici, revêtra de nouveau la combinaison du Alien, de la reine des Aliens et du nouveau-né, car Weaver aimait beaucoup le travail de ce dernier. Plus tard, Woodruff reprendra le rôle de la créature extraterrestre dans les films Alien vs. Predator et Alien vs. Predator Requiem. Mark Vignello et David Pryor seront utilisés comme autres comédiens pour revêtir la combinaison des créatures extraterrestres lorsque plus d'une créature sera nécessaire sur une même séquence. Jeunet engagera également le superviseur des effets spéciaux français Pitoff et le directeur de la photographie Darius Kondji, avec qui il avait travaillé sur La cité des enfants perdus. Nigel Felth sera choisi comme chef décorateur après s'être fait un nom en concevant la ville de Gotham City dans le Batman de Tim Burton en 1989, ainsi que Mega City One dans le Judge Dredd de Danny Cannon en 1995. En juin 1996, Jeunet présentera les croquis des costumes imaginés par Marc Caro au costumier chevronné Bob Ringwood, qui s'en servira comme inspiration, apportant plusieurs modifications au design final. Ce sera la compagnie des effets spéciaux Amal Gamatet Dynamics Incorporated qui sera embauchée pour le film, ayant déjà travaillé sur Alien 3. La compagnie s'inspirera du scénario pour concevoir et modifier les créatures extraterrestres, leur donnant une apparence plus féroce grâce à différentes techniques d'angle de caméra. L'utilisation d'animatronique sera préférée à l'utilisation du numérique, bien que la compagnie Blue Sky Studio fut embauchée de nouveau pour créer certaines créatures en images de synthèse à l'écran. Genet et Pitoff confieront à l'entreprise la création de plus d'une trentaine de plans au final. Les différentes créatures de Resurrection seront conceptualisées par une panoplie d'artistes, dont Sylvain Desprez, Jordi Schell et Chris Cunningham. Une multitude d'animaux seront étudiés pour leurs différents mouvements et actions, notamment des iguanes de mer et des requins pour les scènes sous-marines. Pour la créature du nouveau-né, Genet était catégorique sur le fait que l'hybride ait des organes génitaux ressemblant à un mélange de sexe masculin et féminin. Cependant, les hauts dirigeants de la 20th Century Fox étaient réticents à cette idée, forçant Genet à supprimer ses organes génitaux en post-production grâce à des techniques d'effets numériques. L'hybride animatronique nécessitera plus de 9 marionnettistes et était l'animatronique le plus complexe du film. Alien Resurrection sera tourné dans les studios Fox à Los Angeles, en Californie, d'octobre 1996 à février 1997, cette décision étant prise par Sigourney Weaver, qui estimait que les déplacements en Angleterre des films précédents épuisaient toute l'équipe technique. Il s'agira ici du tout premier long-métrage de la franchise à ne pas être tourné sur le continent européen. Mais Genet aura bien du mal à trouver un studio aux États-Unis, car les dates de tournage de son film correspondront à ceux de Titanic, Starship Troopers et The Lost World Jurassic Park 2, qui occupaient déjà la plus grande majorité des studios de tournage hollywoodiens. Cependant, une fois installé, Genet mènera sa production sans grande embûche, une situation largement imputable à la volonté du réalisateur français de collaborer avec la 20th Century Fox et de satisfaire les attentes du studio. De plus, afin de gagner du temps sur le plateau, le réalisateur fera toutes ses répétitions en compagnie de Pitoff, le superviseur des effets visuels, ce qui permettra à ce dernier de réaliser de nombreuses scènes extraterrestres pour la deuxième équipe avec l'opérateur de caméra et directeur de la photographie de la deuxième équipe, Conrad Hall. Finalement, Genet avait réécrit le scénario du film en le structurant comme une bande dessinée, soit avec les images à gauche et les dialogues et les descriptions à droite, facilitant ainsi le travail des artistes des effets spéciaux. Afin d'accentuer les contrastes, le directeur de la photographie, Darius Kondji, ajoutera de l'argent au processus de développement, ce qui aura pour effet d'enrichir les couleurs sombres et de donner à l'ensemble une teinte métallique. Il utilisera également une teinte bleue électrique pour la séquence sous-marine. De plus, un soin particulier sera également apporté à la conception des plans impliquant les créatures extraterrestres, le tout ayant été planifié à l'avance pour tenter de les filmer de façon différente de ce qui avait été fait précédemment. La séquence sous-marine a été la première à être tournée sur un plateau spécialement construit sur le studio de la Fox, transformé en un gigantesque réservoir d'eau permanent de plus de 36 mètres par 45 à 4,5 mètres de profondeur, le réservoir pouvant contenir plus de 548 000 gallons d'eau. Il faudra près d'une semaine pour le remplir. Pour la séquence, chaque acteur disposait d'un plongeur avec une réserve d'oxygène. Cependant, à un certain moment, le plongeur de l'acteur Leland Horser dut quitter l'eau pour aller à la salle de bain et la situation faillit tourner au désastre lorsqu'Horser a commencé à manquer de souffle. Heureusement, ce sera le plongeur de l'acteur Ron Perlman qui viendra à sa rescousse. En raison du tournage aquatique, la capacité de nager était une condition préalable pour les acteurs et l'équipe lors de la signature de leur contrat. Les acteurs se sont entraînés dans des piscines à Los Angeles avec des plongeurs professionnels pour apprendre à utiliser leur équipement. Deux semaines et demie supplémentaires de formation ont eu lieu au studio avec le coordinateur des cascades Ernie Orsatti et le directeur de la photographie sous-marine Peter Romano. Malheureusement, Sigourney Weaver n'a pas pu participer à la plupart des formations en raison d'engagement à Broadway. Mais ce sera l'actrice Winona Ryder qui aura le plus de difficultés avec cette séquence, cette dernière ayant failli se noyer à l'âge de 12 ans et n'étant jamais retournée dans l'eau depuis. Elle suggérera au réalisateur français d'utiliser une doublure pour elle, ce que Genet refusera. Lors de la toute première journée de tournage de cette séquence, Ryder aura alors une attaque de panique sur le plateau de tournage. De plus, durant les trois semaines où seront tournées la dite séquence sous-marine, l'acteur Ron Perlman, qui réalisera lui-même la plupart de ces cascades, passera proche de se noyer lorsqu'en essayant de remonter à la surface, il se cognera la tête contre un arroseur au plafond, l'assommant net. Il sera alors secouru par l'équipe de tournage qui se trouvait à proximité. Sigourney Weaver eut l'idée pour illustrer les nouveaux pouvoirs du clone de Ripley d'inclure une scène où elle lancerait un ballon de basket à travers un panier, mais de dos. Genet craignait que cette séquence nécessite des centaines de prises et souhaitait que soit utilisée une machine pour lancer le dit ballon ou encore que soit intégré ultérieurement le dit ballon en image de synthèse. Cependant, Weaver était déterminée à rendre la prise authentique et a insisté pour la réaliser elle-même. Après un mois d'entraînement, l'actrice productrice arrivera sur le plateau de tournage le jour du tournage et constatera que la distance entre elle et le panier était beaucoup plus longue que celle pour laquelle elle s'était entraînée. Malgré cela, et ce dès la première prise, elle réussira parfaitement son lancer, la scène stupéfiant tous les acteurs et membres de l'équipe, à un point tel que l'acteur Ron Perlman laissera échapper un cri d'exclamation, laissant craindre qu'il venait tout juste de gâcher cette prise unique. Cependant, il y eut suffisamment de temps entre le panier de Weaver et l'exclamation de Perlman pour que le monteur du film, le Français Hervé Schneid, coupe la scène en conséquence en post-production. Un autre problème avec la scène fut que le ballon ira hors du cadre pendant un moment, forçant Genet et Pitoff à proposer de montrer celui-ci pendant toute la scène avec l'aide de l'infographie, mais Weaver insistera pour que le plan soit conservé tel quel. Tous les vaisseaux spatiaux du film seront réalisés à l'aide de miniatures. Quant à la tête de la reine Alien clonée, celle de la reine du film de 1986 Alien fut réutilisée, ayant été obtenue auprès d'un collectionneur du nom de Bob Burns et repeinte avec une nouvelle peinture au ton brun et vert. Les moules originaux des bras, des jambes et de la queue de la créature furent récupérés auprès d'une entreprise de répliques du Colorado, mais cependant, les moules originaux du corps, eux, avaient été détruits. La compagnie Argonaut Games, développeur du jeu vidéo dérivé du film Alien Resurrection, fut également chargée de créer l'image du jeu vidéo intitulé Atom Zone. Le jeu sera créé en quelques jours et nécessitera la construction d'un matériel sur mesure pour l'exécuter, lequel apparaîtra brièvement lors de la présentation de l'équipage du Betty. Le compositeur musical John Frizzell fut encouragé par un ami a auditionné pour composer la musique du nouveau long-métrage de la franchise Alien. Frizzell enverra 4 segments audio à la 20th Century Fox et ce sera Robert Kraft, représentant des studios, qui, impressionné par son travail, l'embauchera. Frizzell passera plus de 7 mois à écrire et à enregistrer la musique du drame de science-fiction. Cependant, une controverse éclatera lorsque l'illustrateur H.R. Giger découvrira qu'il n'était pas du tout crédité pour les éléments de conception des créatures dans le quatrième film. Une campagne sera alors réalisée pour faire pression sur les hauts dirigeants de la Fox afin de rétablir le crédit de Giger dans le générique, l'artiste écrivant une lettre indiquant que les créatures d'Alien Resurrection étaient beaucoup plus proches de ses conceptions originales que celles apparaissant dans le deuxième et troisième film de la série. Au final, le crédit de Giger sera placé au générique de la fin du film lors de la sortie de ce dernier en vidéo. Alien Resurrection aura sa première à Paris le 6 novembre 1997, 6 jours avant la sortie officielle du film en France. Il faudra attendre 14 jours plus tard, soit le 26 novembre, pour que le drame de science-fiction soit distribué dans plus de 2415 salles en Amérique du Nord, le film terminant en deuxième place du box-office, tout juste derrière Flubber, avec des recettes de plus de 25 millions de dollars au cours de ses 5 premiers jours d'exploitation. Le film amassera au final plus de 47,8 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, ce qui en fera le volet le moins rentable de la série. Toutefois, Resurrection sera mieux accueilli à l'international, avec un total de 113,6 millions de dollars de recettes. Afin de coïncider avec la sortie en salle d'Alien Resurrection, un livre écrit par l'auteur Andrew Murdoch et intitulé « The Making of Alien Resurrection » sera publié par la maison d'édition Harper Paperbacks le 28 novembre 1997. Une novélisation de l'auteur A.C. Crispin sera quant à elle publiée le 1er décembre 1997 par la maison d'édition Titan Books. Finalement, la compagnie Dark Horse Comics publiera une adaptation en comic book de 2 numéros, le premier étant mis sur le marché le 29 octobre 1997. Écrit par Jim Vance et illustré par Eduardo Risso, ces comics seront réimprimés en Angleterre dans le Aliens Magazine numéro 1 et 2, qui seront alors distribués en décembre 1997 et janvier 1998. En 2003, Jean-Pierre Jeunet inclura une version alternative de son film dans le coffret DVD intitulé Alien Quadrilogy, avec des scènes d'ouverture et de clôture différentes, séquences qui furent initialement coupées en raison de restrictions budgétaires. De plus, près de 13 minutes de scènes supprimées seront réintroduites dans le long-métrage, incluant une scène de dialogue entre Carl et le Claude de Ripley alors qu'ils contemplent les ruines de Paris sur la Terre. Cependant, le réalisateur français déclarera que sa version préférée demeure celle présentée au cinéma. Malgré les mauvais chiffres au box-office mondial, un cinquième volet de la franchise sera évoqué à plusieurs reprises, la première provenant du scénariste-réalisateur Joss Whedon, qui développera alors un scénario se déroulant sur Terre et qui aurait été intitulé « Alien Revelation ». Le projet sera rapidement abandonné car Sigourney Weaver n'aimera pas le concept. Alec Gillis et Tom Woodruff Jr. de la compagnie Amalgamated Dynamics, qui avaient travaillé sur les effets spéciaux pour Alien 3 et Alien Resurrection, livreront également un concept d'histoire pour un cinquième volet de la franchise à la 20th Century Fox, mais ce projet ne sera également pas retenu. Juste avant que la 20th Century Fox ne donne le feu vert au projet Alien vs. Predator, le scénariste, réalisateur et producteur canadien James Cameron collaborera à une intrigue pour un nouveau film dans la franchise avec le réalisateur-producteur britannique Ridley Scott. Apprenant le projet de crossover de la Fox entre l'univers des Aliens et celui des Prédateurs, Cameron abandonnera son concept, déclarant qu'un tel projet détruirait fort probablement les deux franchises. Dans les années qui ont suivi Alien vs. Predator, l'actrice Sigourney Weaver continuera d'exprimer son intérêt pour retrouver Ridley Scott afin de faire revivre son personnage dans un autre film de la franchise Alien. Puis, en 2013, soit un an après la sortie en salle du film de Ridley Scott Prometheus, le réalisateur sud-africain Neil Blomkamp exprimera le désir de réaliser un autre film dans la franchise Alien dont le concept ignorait totalement les films Alien 3 et Alien Resurrection et dont l'action se concentrait sur une Ripley et un Hicks beaucoup plus âgés. Après avoir publié des images conceptuelles inutilisées sur son compte Instagram afin que les femmes de la franchise puissent les découvrir, celles-ci susciteront un intérêt considérable à un point tel qu'une rencontre sera demandée par les hauts dirigeants de la Fox. Suite à cette rencontre, le feu vert sera donné par les exécutifs de la 20th Century Fox et Blomkamp obtiendra alors le poste de réalisateur, Weaver indiquant rapidement qu'elle serait disposée à participer à ce projet. Suite à une rencontre entre le metteur en scène et Weaver, Blomkamp retravaillera pendant plus d'un an son projet de film, contactant alors l'acteur Michael Biehn pour sa participation au futur long-métrage. Suite à une rencontre entre Blomkamp et le réalisateur Ridley Scott, ce dernier offrira de produire ce cinquième film de la franchise dont le tournage était prévu à Vancouver avec une sortie prévue en salle en 2017. Cependant, après avoir visionné le dernier film du réalisateur sud-africain, Chappie, Scott se désintéressera totalement du projet d'Alien 5 et commencera alors à travailler sur son projet d'Alien Covenant, ce qui conduira à l'annulation complète du projet de Blomkamp. Le 20 septembre 2005, le producteur américain Gordon Carroll décédera d'une crise cardiaque à Los Angeles, en Californie. Il était âgé de 77 ans. Quant au producteur-scénariste David Giller, ce dernier décédera des suites d'un cancer le 19 décembre 2020 à sa résidence de Bangkok. L'acteur américain et poète James E. Freeman décédera dans la nuit du 9 août 2014 suite à des complications liées à la maladie du sida. Il était âgé de 68 ans. Du côté des points forts, eh bien, le réalisateur Jean-Pierre Jeunet prend d'assaut la franchise d'Alien avec une direction photo excellente et une approche visuelle high-tech et agressive qui donne une touche de renouveau et un nouveau souffle à la série de films. D'ailleurs, la touche du metteur en scène français était ce qu'avait besoin cette franchise qui semblait avoir rendu l'âme avec le précédent volet. Ce nouveau chapitre des aventures de Ripley est original, l'aspect du clonage et de la manipulation de l'ADN permettant d'avoir des créatures beaucoup plus menaçantes et intelligentes que dans les volets précédents. Au niveau de la distribution, cette dernière est fort surprenante, le tout dirigé par une Sigourney Weaver qui semble s'amuser énormément avec son personnage ici. Avec une mise en scène nerveuse qui privilégie l'action, ce film contient des effets spéciaux d'excellente qualité, mais est également le film le plus violent de la série, au grand plaisir des amateurs de ce genre de spectacle. Certaines séquences sont tout simplement mémorables, notamment celles se situant dans la salle de basketball et la fameuse séquence sous-marine. Mais du côté des points faibles, le style européen de Alien Resurrection pourrait donner du fil à retordre aux amateurs des autres films de la série, ce nouveau volet se démarquant totalement à ce niveau comparativement aux autres. Cela nous donne un résultat qui nous rappelle fortement le drame de science-fiction The Fifth Element, qui n'avait pas conquis son auditoire à l'origine de sa sortie en salle à cause de ce style européen, mais qui est devenu un classique avec le temps. Malgré une excellente distribution, certains personnages sont mal castés, notamment Winona Ryder et Dan Hedaya. De plus, certaines séquences sont overactées par certains acteurs secondaires, ce qui nuit à la crédibilité dramatique du film. En général, le scénario ne s'attarde pas assez aux personnages, ce qui nous empêche de nous intéresser à ces derniers. De plus, l'humour noir de Genet ne fonctionne pas ici, Alien n'étant pas la franchise pour ce genre d'humour facile. Un exemple, cette séquence où le général du vaisseau scientifique est attaqué par un alien de dos, la créature lui perforant à l'aide de sa dentition l'arrière de sa tête. La réaction de l'homme, il va chercher un bout de cerveau avec sa main. Un humour discutable dont on n'était pas habitué dans la franchise jusqu'ici et qui enlève l'aspect crédibilité instauré dans les trois premiers volets. Finalement, bien qu'elle a ses moments, la trame sonore du compositeur John Frizzell devient agaçante par moments, nous faisant regretter la musique de Jerry Goldsmith ou celle de James Horner. Au niveau de la partition musicale, comme je le disais, c'est le compositeur américain John Frizzell qui était responsable de la trame sonore, lui qui avait réalisé les trames sonores des films Dante Speak, Ghost Ship, la version 2002, 13 Ghosts, la version 2001 et Texas Chainsaw 3D. On peut retrouver la trame sonore d'Alien Resurrection sur CD, ce CD qui a été mis sur le marché sous l'étiquette RCA Victor le 11 novembre 1997. Et vous avez également la Limited Extended Edition de Alien Resurrection qui a été distribuée sur le marché sous l'étiquette La La Land Records le 5 octobre 2010. Du côté des cotes artistiques, Mediafilm a coté le film Alien 3-5. Moi, j'y vais avec un 6. Les effets spéciaux, autant le visuel est spectaculaire et les décors grandioses, mais les effets spéciaux numériques sont d'une médiocrité incroyable. Donc, j'y vais avec une cote 6. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté d'Alien Resurrection, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec un 4. Du côté de la régie du cinéma, on a coté le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Au niveau de la distribution, au niveau DVD, Blu-ray disc et 4K, Alien 3 est distribué en français et en anglais en DVD et en Blu-ray. Vous avez également une Collector Edition qui se trouve en DVD et vous avez finalement la version Special Edition qui se trouve dans le coffret de Alien Quadrilogy qui se trouve en DVD et en Blu-ray qui comprend les deux versions du film, soit la version originale et la version Special Edition. Même chose dans ce coffret, vous avez Alien Resurrection en format régulier et en format Special Edition, mais vous avez également le film Alien Resurrection qui se trouve en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray. Et finalement, vous avez le six-pack, c'est-à-dire Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, Prometheus et Alien Covenant qui se trouve en Blu-ray et en DVD, en français et en anglais. Donc, quelque chose que vous pouvez rajouter à votre collection.
Thank you.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Ladies and gentlemen, our next attraction.
Coming soon to a theater near you.
I was always very interested to meet you. I'd heard so much about you from Vespa. If she hadn't killed herself, we would have had you too.
Are you going to tell us who you work for?
The first thing you should know about us is that we have people everywhere.
I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge.
I'm motivated by my duty.
I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go.
You don't have to worry about me.
Restrict Bond's movements. Put a stop on his passports. Find Bond.
How long have I got?
30 seconds.
That doesn't give us a lot of time.
Country.
England.
Gun.
Shot.
Agent.
Provocateur.
Murder.
Employment.
Skyfall. Skyfall.
Done.
Now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you.